Bonjour. En fait, j'ai la difficile tâche d'introduire quelqu'un que vous connaissez tous, en fait, je crois. C'est-à-dire Dominique Lahari, vous le connaissez depuis longtemps, puisqu'il est bibliothécaire depuis 40 ans. Sa carrière, comme il nous l'a fait remarquer, a commencé en 1977, c'est-à-dire à peu près au moment où le jeune garçon qu'on a vu tout à l'heure s'élançait à l'ouverture de la BPI. Dominique, je crois que c'est à ce moment-là que tu as passé ton CAFB.
J'en ai eu un en 76 et un en 77.
D'accord. Donc, premier en 67, hein, donc ça fait 50 ans.
Non, 76.
Ah, 76, pardon, excuse-moi. Après, bien entendu, une carrière en tant que directeur, notamment de la médiathèque du Val d'Oise. Il a été également vice-président de l'ABF et président d'IABD sur la fin de la carrière, si je ne me trompe. Vous connaissez tous, je pense, ses nombreuses contributions, ses articles professionnels, son site professionnel, son blog. Retraité depuis 2013, on n'a pas trop remarqué que tu étais retraité. Tu es toujours actif dans la profession et je crois que on est tous bien conscients que ça traduit une passion, une volonté de servir, d'être présent et d'apporter encore ce que tu souhaites apporter, notamment dernièrement sur la réforme territoriale, sur laquelle tu as fait des contributions, notamment dans le BBF, sur l'accueil, sur la désintermédiation, également récemment également au cercle de la librairie, dans l'ouvrage La valeur sociétale des bibliothèques. Tu posais la question, à quoi bon les bibliothèques? Donc, je vais te laisser pour ton intervention, trois quarts d'heure, et ensuite, nous aurons quelques questions avant de passer à la table ronde.
Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de gens que je connais, que j'ai connus, et d'autres, comme on se le disait avec Michel Melot, d'autres qu'on ne connaît pas, et c'est extrêmement bon signe. Alors, quand vous m'avez proposé, cher Philippe et Annie, un peu avant l'été, d'intervenir sur 40 ans de lecture publique, je vous ai dit non, parce que je ne voulais pas passer mon été dans les archives et les bibliothèques. Quelle horreur. Et puis, finalement, j'ai dit, ce que je peux faire, c'est un regard subjectif, avec un parti pris quand même de recul, ce que j'essaye toujours à voir, mais ça va être ma vision. Peut-être mes angles morts, mes partis pris, bien sûr. Et c'est bien que tout le monde ait des partis pris. Et puis, mon principal parti pris, c'est celui-là. J'ai négligé d'acheter ce T-shirt et je l'ai regretté parce qu'il est hors commerce maintenant, quand il y avait la belle exposition à la Cité des Sciences sur Darwin. C'est un parti pris, vous l'avez compris, évolutionniste. Et dommage, au passage, à la science, hein, contre toutes les forfaitures. Alors, 1977, qu'est-ce que c'est? C'est le premier épisode de la guerre des étoiles, qui ensuite est devenu le quatrième, comme l'histoire se refait, et c'est en même temps la sonde Voyager, et c'est-à-dire qu'on avait un futur qui était celui nourri par la science-fiction, qui était extra-galactique, on était là-dessus, hein, beaucoup, on imaginait l'an 2000 de l'époque, c'est intéressant, il y a même un livre qui est paru là-dessus. Et puis finalement, les choses sont peut-être passées autrement. C'est une époque très ancienne où on ne pouvait pas avoir de café gourmand, ça n'existait pas. Et les commerçants, en général, quand ils vous disaient au revoir, n'ajoutez pas bonne journée. Et donc, c'est une époque vraiment très, très ancienne. Alors, pour ma part, je n'ai pas eu, d'autres l'ont eu, c'est très bien, une vocation de longue date, et très vite, j'ai compris que j'allais rentrer dans la profession. La profession, c'était quelque chose. C'est toujours quelque chose, à tel point que si vous vous promenez sur le site de deux grandes institutions, qui sont des sortes de les institutions de la profession, la BNF et le Centre Pompidou, vous avez un onglet sur les professionnels. Il y a toutes sortes de professionnels, mais c'est nous. C'est nous, les professionnels de la profession, bien évidemment. Et cette profession, j'y suis rentré par cette porte, comme il était dit. Alors, voilà, tu m'as fait rappeler que j'ai eu ce CFB en 76, cet autre en 77. C'est une entrée qui a été, pour beaucoup, on ne disait pas encore territoriale, on disait communale. C'est pas neutre, parce que c'était une sorte de moule de cellules de formation qui permettait d'avoir sa boîte à outils. Et quand je débarquais, à l'époque, on n'avait pas de problème pour trouver du travail, on est bien conscient de ce privilège de cette génération, eh bien, on avait sa boîte à outils, on savait comment faire, parce qu'on était rentré dans la profession. Et la profession, quelle préparation. Je m'étais, je vous l'avoue, ennuyé à l'université, et là, j'ai eu des cours de Jacqueline Gasquel, Annie Bétry, Martine Blanc-Mayer, que je salue, Pascal Sens, Josette Grandjean, André Thil, Marie-France Bisgoop, Alice Garrigou, je ne crois pas Michel Melot, mais je le salue quand même, et avec une technologie, bien sûr, qui ferait sourire maintenant, ces petites fiches, on apprenait les bases. Et donc, on faisait partie du personnel, et pour beaucoup, le personnel communal, avec toute cette hiérarchie extraordinaire, qui était celle d'une fonction communale qui n'était pas encore vraiment rentrée dans la fonction publique territoriale, où il n'y avait pas stricto sensu la garantie d'emploi, et il y avait toute cette épaisseur. Alors, on nous a appris, bien sûr, en principe, les employés de bibliothèque n'avaient pas à faire d'équipement, c'est le travail des garçons. Bon, dans la pratique, c'était beaucoup plus flou que ça. Ou bien j'ai eu à faire un examen blanc pour savoir si les sous-bibliothécaires font partie du personnel technique. Que pensez-vous de cette appellation? Et puis, il y a eu la réforme des statuts, une grande manifestation. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres ni de dates, mais voilà, c'était le 17 septembre 1990, place des Invalides, une manifestation syndicale où il y avait aussi des banderoles ABF. Un clin d'œil ici à Jean-Pierre Zanetti, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. Et puis, ça a été la bataille des statuts. Cette bataille des statuts, il s'agissait de rendre conciliable deux architectures qui ne l'étaient pas du tout, qui étaient celles de l'État et celles des collectivités territoriales. Et nous avons eu une réforme concomitante. Alors ça, j'ai retrouvé ça dans mes archives, mais je crois que je corrigeais ce note d'information avant qu'elle soit publiée sous forme définitive. Et donc, crime de lèse-majesté, les statuts des territoriaux ont été publiés avant la réforme des statuts de l'État. Et depuis, nous avons eu l'apparition du concours, parce que, évidemment, je suis rentré sans concours, comme beaucoup de l'époque, avec simplement un diplôme, une licence, etc. Ce concours, qui avait été inventé dans l'Empire des Tang, voilà qu'il arrivait, et qu'il allait structurer beaucoup la profession, parce qu'on y a, on l'a ce concours, ou on ne l'a pas, il y a les reçus collés, il y a ceux qui sont embauchés mais qui n'ont pas le concours. Voilà, c'est un corset qui fait souffrir, et qui est toujours, semble-t-il, une base pour qu'il y ait une sorte d'objectivité des recrutements. On peut en discuter. Alors, évidemment, comme il y avait des statuts, on s'est dit, ben voilà, c'est dans le journal officiel que sont définies les fonctions. C'est là que m'est venue l'idée, le statut, c'est un peu comme le rire, selon la formule de Bergson, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Les choses sont beaucoup plus compliquées, bien sûr, parce qu'en catégorie C, on pouvait, dans une petite bibliothèque, être chef. Voilà. Mais ce cadre est resté, et on a toujours, dans l'épaisseur de notre archéologie professionnelle, ceux qui sont passés par le CFB, ceux qui ont une formation post-recrutement d'un an, puis après la formation post-recrutement de 5 jours, etc., jusqu'à la période actuelle, qui comprend aussi, parce que c'est un lot de toute la société, de la profession aussi, la précarité. Alors, bien sûr, cette profession, ce métier, on a beaucoup dit que, voilà, sans arrêt, depuis 40 ans, est-ce qu'on s'est interrogé sur les nouveaux métiers, les nouvelles compétences? Ce n'est pas une rengaine, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est normal, mais évidemment, on en parle à propos de tout, on n'est pas les seuls. Là, il s'agit de la biodiversité. Et on s'est demandé s'il existait un cœur de métier. Cette notion de cœur métier, je l'ai toujours trouvée, promenée à travers les âges. Il me semble qu'elle a bougé. Ma réponse est qu'il n'y en a pas, et que c'est une conception dangereuse, mais ce cœur bat toujours. Évidemment, structurellement, c'est aussi ce qu'on a appris au CFB, le cœur de ce métier, c'est la collection, la constitution de la collection. Et donc, la collection, on apprenait que c'est quelque chose qui s'accroît. Ça s'accroît toujours. Jusqu'à ce qu'ici, dans cette maison, à la BPI, on ait dit, mais pour un document rendu, un sorti, c'est extraordinaire, c'était révolutionnaire. Il a fallu du temps pour digérer cette maxime révolutionnaire. C'est quelque chose qui s'accroît. C'est quelque chose qui passe par nous, par notre filtre, et c'est quelque chose qu'on décrit. Car si on ne l'a pas décrit, ça n'existe pas, tout le système de l'appropriation symbolique de la profession. Cette posture, c'est celle que j'ai apprise. Même si on ne l'apprend pas, elle dure. Alors, en 1994, il y a eu un congrès de l'ABF, on m'a fait intervenir sur le métier. Et j'ai eu comme un chemin de la masse, et j'ai lu de la littérature sur le métier, et j'ai compris que le métier, pour les économistes, c'était le métier de l'entreprise, c'était quelque chose de collectif. Donc il existe un métier de la bibliothèque, une fonction sociale, une utilité, on dit maintenant. Ça, c'est le surmoi. Il y a les fiches de poste, etc., le métier des ressources humaines. Ça, c'est le moi. Et il existe toujours le métier vécu, le cœur qui bat toujours, c'est le ça qui parle. Ce qui est intéressant, c'est de déconnecter tout ça et de ne pas confondre la bibliothèque et les bibliothécaires pour raisonner, raisonnablement sur l'utilité. Ensuite, bien sûr, le ça, c'est lui qui donne du cœur à l'ouvrage et c'est lui qui va faire fonctionner nos établissements. Mais il est intéressant qu'il soit fondé sur l'utilité publique. Un jour, on m'a demandé, c'est Annie Bétry, un article sur les générations. J'ai été sidéré par ce que j'ai fait, parce que j'ai distribué un petit questionnaire que j'ai fait envoyer à des collègues de toute génération. À l'époque, c'était en 2005. J'ai été sidéré, de la violence, des écarts de point de vue entre générations. Bien sûr, ce n'est pas seulement entre générations, mais ces écarts me paraissaient absolument très, très intéressants. Et donc, moi, j'étais dans les quinquagénaires à l'époque. Il y avait les anciens, on partageait la notion d'État, de République, de militantisme, de culture légitime, de libre, etc., avec les normes, et aussi le corporatisme qui y est attaché. Et puis, vers les quadragénaires, on arrivait à la notion de service public, des collectivités territoriales. Et puis, vers les trentenaires, le développement, le management, le petit support. Chez les benjamins, les usagers, le relativisme culturel, l'individualisme, éventuellement le carriérisme, les nouvelles technologies. Cette étude, il faudrait la refaire. Je lance un appel à ceux qui voudraient le faire, avec ou sans moi. Il y a maintenant des nouvelles générations encore, et le mot de militant qui était écrasant à l'époque ressurgit sous une autre forme. C'est ça qui est intéressant. Avec cette question que je pose au passage, est-ce qu'il y a, oui ou non, un filtre dans une profession très majoritairement féminine, avec peut-être plus de direction masculine et de porte-parole masculin? J'y participe ce matin. J'en suis désolé. Cette profession, bien sûr, elle est extrêmement organisée et associée. On a toutes ces associations dont certaines se sont créées au fil du temps. L'ABF, une sorte d'association mère, née en 1906, et la DBDP qui va se transformer en association des bibliothécaires départementaux. C'est à la fois l'expression de la profession avec cet aspect de corporatisme, mais c'est aussi en même temps le côté vivant et qui va dépasser tout ça, qui va s'organiser au sein de l'IABD, mais il n'y a pas que des bibliothécaires, ou autre phénomène, un collectif informel comme Savoir Commun qui va, à partir de réflexions de bibliothécaires, irriguer la société sur des sujets de société tout à fait intéressants et très utiles. Et donc, avec cette presse, il faut voir ce que c'était que cette presse en 1977, c'était pas drôle de feuilleter nos bouquins. Et en même temps, le voyage à l'étranger, le Danemark toujours, dont mes cours de CAFB de 1976 disaient que de toute façon, au Danemark, on ne se posait pas la question du taux d'inscrit, puisque tout le monde était inscrit, c'était déjà un Eldorado. Et cette profession, elle est divisée évidemment, elle est stratifiée, c'est normal, entre des chefs, entre des pas-chefs. On n'est pas du même point de vue suivant la place qu'on a dans sa hiérarchie, et elle est travaillée par des oppositions importantes. Alors, il y a une expression qui peut être syndicale, pas syndicale. Pendant la période de construction statutaire, c'était plutôt ce côté constructif ou contestation des statuts qui apparaissait. Aujourd'hui, il y a énormément de conflits du travail. Les bibliothèques sont des lieux de travail parmi les autres. Il y a ce côté normal, banal. Et puis, dans le contexte actuel, où il y a remise en cause des métiers, etc., du sens du travail, réorganisation sur fond d'argent public qui ne va pas en augmentant, ça souffre et ça tiraille, et c'est normal. Et ça bouge de ce point de vue-là. Alors, la grande mutation, c'est l'informatique. Je ne passerai pas tout ce que j'ai prévu, ça c'est à peu près sûr, mais je vais me débrouiller. L'informatique, ça a été une première obsession. Là, on faisait des petites fiches sur stencil à l'époque, c'était une première forme d'automation, et on avait ces fiches de prêt. On a imaginé différents systèmes de prêt, puis tout d'un coup est arrivé le dollar. J'ai eu une démonstration de dollars. On avait invité des bibliothécaires à montrer comme c'était merveilleux les notices bibliographiques. J'y comprenais absolument rien. Mais c'était une démonstration du logiciel Libra, car à l'époque, on a imaginé un logiciel national, etc., qui a été l'introducteur en France des dollars. Hommage au collègue qui fait un certain nombre de dessins sur ce thème, mais qui n'a jamais été fichu de prêter un bouquin. Et donc, on était dans une informatique ou encore avec système central, où déjà, à distance, certains habitants qui avaient de la chance pouvaient, sur Minitel, consulter le catalogue. Mais finalement, on a vu dans les bibliothèques arriver le PC. Pourquoi faire ? Pour récupérer des notices bibliographiques. C'est grâce à ça que le PC est arrivé dans beaucoup de bibliothèques. Des notices de la BNF ou des lettres, etc. Le multimédia, ça voulait dire plusieurs supports physiques dans une même collection. Alors que ce n'est pas ça le multimédia pour la plupart des gens. C'est sur base informatique. Et c'est là qu'est arrivée la révolution numérique. Alors, il paraît qu'un conseiller d'un président a soufflé à son président l'idée d'une très grande bibliothèque d'un type entièrement nouveau. C'était en 1988, voilà une date, mais en 1991, voilà deux gaillards qui ont complètement changé le contexte. Tim Berners-Lee, Robert Caillot, qui devraient être aussi connus que Gutenberg, qui ne le sont pas, c'est parfaitement injuste, qui ont inventé le web. Et là, on est rentré dans un autre monde. Avec ses moteurs de recherche, et tout le monde s'est demandé s'il était, lui, le dernier dinosaure, et les bibliothécaires se sont le demandé. Alors, en 1998, la DBDP a organisé ses journées au Futuroscope, et là, je suis allé récemment au Futuroscope, c'est un bâtiment qui est un peu loin, qui ne sert plus, qui est abandonné. On s'est réunis dans une espèce de corolle qui servait aussi pour des congrès. Et on inventait, avec Alain Caraco, on s'est dit, il faut faire de la pédagogie. Et les sites d'associations de bibliothécaires étaient des sites pédagogiques pour montrer, voilà comment c'est Internet, allez, il faut y aller, etc. Voilà plein de liens, voilà, spécial débutant, et on y allait. Et puis, bien sûr, la première chose qu'on a eu l'idée, on est des bibliothécaires, de mettre sur Internet, ce sont des catalogues. Et donc, j'ai participé en 96 à présenter le premier catalogue en ligne commun, interrogation simultanée, pas simultanée, mais juxtaposée, de catalogues de bibliothèques départementales et universitaires à M. François Bérou, qui était ici, et qui admire ces écrans noir sur blanc que nous présentions avec émerveillement. Voilà, nous étions très en avance. Et donc, bien sûr, comme nous sommes des bibliothécaires, nous nous sommes dit, eh bien, voilà un nouveau support, nous allons faire du tri, comme d'habitude, et nous allons montrer notre tri au public, qui n'attend que ça. Et c'est l'âge d'or des sitothèques, il y a eu même les sitothèques, il y en a eu, je vous jure, dont l'idée, c'est, vous n'avez accès qu'à ce qu'on a choisi. Ça a existé. C'était normal, c'était la continuation de la posture. Il fallait comprendre petit à petit que l'Internet n'allait pas être un concurrent, comme on le dit encore. C'est le contexte. Évidemment, les gens, ils veulent le libre partout, parce que c'est ça qu'on leur a donné. Alors, dans les supports, c'est apparu finalement des expressions. Tout d'un coup, les livres sont devenus des livres de papier. Et les disques sont devenus des vinyles. On a changé les noms. On a eu les e-books, on a eu les CD, bien sûr, on a eu le MP3 et ce qu'on appelle vraiment le multimédia dans la société globale. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a des temporalités qui sont différentes, parce que quand Sony a inventé le Walkman en 1979, c'est à partir de ce moment-là que l'écoute de la musique est devenue une pratique répétitive et nomade. Donc le pli s'est fait avant l'explosion du web. Vous voyez, les temporalités sont différentes, sauf que, évidemment, ce n'était pas du MP3, c'était de la bande magnétique, et c'était bien d'aller à la médiathèque pour emprunter des CD. Bon, ça, c'est une figure un peu naïve que j'ai vue récemment dans une exposition sur l'imprimerie. Et donc, on allait se demander si le vieux livre allait se transformer en tablette. Et on s'est beaucoup focalisé sur les ressources qu'on avait l'habitude de prêter, et donc, elles devenaient numériques, et c'était très compliqué. Heureusement que la BPI, dans toutes ses missions, a débrouillé l'affaire, a créé Carel, qui est devenu ensuite une assoc, parce que quand même, c'est un travail qu'il fallait faire à l'échelon national. Mais finalement, ce qui marche, il faut le faire, ça continue. Mais ce qui marche le mieux, c'est quand même l'auto-formation, pour laquelle la BPI ici aussi a été un pionnier. Et puis, il n'y a pas que les contenus qu'on paye de façon compliquée, il y a les contenus libres de droit, et finalement, ce thème des communs du savoir et des bibliothèques. Donc, on est passé de la sélection de contenus qu'on choisissait et qu'on payait à populariser des contenus qui peuvent être partagés et qui sont le commun, c'est plus du public, c'est autre chose, c'est ce qui est commun à une communauté ou une nation, voilà. Ça. Il y a des glissements conceptuels qui sont intéressants, auxquels les bibliothécaires participent. Et puis finalement, on s'est dit, on est là aussi pour répondre à des questions, et puis pour prêter toutes sortes de choses, y compris des instruments de musique, des outils, des graines. Et donc, cette bibliothèque qui n'était pas de prêt paraissait bizarre, mais maintenant ça ne paraît plus bizarre, puisque le prêt est moins important, et on prête de plus en plus de choses. Alors, ça a été l'époque de la bibliothèque hybride. On en a beaucoup parlé, concept fait pour les BU, mais qui a été approprié, notamment par Gilles Eboli, en a beaucoup parlé quand il était président de l'ABF, et on a eu un groupe extraordinaire, dont il y a certains représentants ici, qui était le groupe des hybrides à l'ABF, bon, qui a eu sa fonction, et puis à chaque fois, on s'est dit, la fonction, elle a été, comment dirais-je, accomplie, et on peut passer à autre chose. Alors, nous avons vécu, chers collègues, dans une angoisse terrible. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Parce que la fin était proche. Dans les années 2003, une série d'articles dans le BBF, la fréquentation des bibliothèques municipales. Pourquoi ? Parce que la tendance était baissière. Et on y avait. Et qu'est-ce qu'on disait quand il disait fréquentation ? On comptait inscrits. C'est ça qu'on appelait la fréquentation. Mais le ministère de la Culture, dans sa grande sagesse, a commandé une enquête au Crédoc. Et pof ! La fréquentation, qu'est-ce que vous racontez ? Elle a doublé depuis 1989. Vous êtes dans une tendance historique haussière, mais ce qui augmente surtout et le plus, c'est la fréquentation, les entrées plus que l'inscription et le prêt. Et on a commencé à découvrir là quelque chose. On le savait, on le voyait avec nos usagers, mais à le découvrir conceptuellement. Et j'espère à ne plus confondre fréquentation et inscription. Et une nouvelle statistique, c'est seulement depuis 2003 que le ministère les demande dans son rapport annuel. Je comprends qu'il y a encore une minorité de bibliothèques qui répondent, mais peut-être qu'on va pouvoir faire des efforts dans les années qui viennent, dans les 40 années prochaines, pour avoir vraiment le chiffre. Ne m'appelez plus 17%. Comptons comme nos collègues d'autres pays, comptons la fréquentation, comptons l'usage global des bibliothèques. Et puis finalement vint le troisième lieu. Alors évidemment, c'est avaru par un diplôme d'un mémoire de Maltil Servet et puis un article. C'est venu des États-Unis, c'est venu sur un terrain qui lui était préparé évidemment par tout ça. C'est un concept, on lui demande d'être opérationnel, de permettre de penser. Mais avant on disait rôle social, on disait fonction d'espace public, etc. Voilà, c'est pas du tout une météorite qui est arrivée, mais c'est un concept qui était très utile et qui a doper la réflexion, qui montrait que quand on rentrait en bibliothèque, on rentre, comme on dit pour une chaîne de restauration rapide, venez comme vous êtes, dans votre globalité, comme à la maison. Et puis voilà, on peut faire tout ça dans une médiathèque. Bon, ben, ça, c'est l'escalier du Centre Beaugrenelle à Paris, mais voilà, ce sont d'autres types de troisième lieu. On n'est pas tout seul dans les troisième lieux. Et voilà, on peut manger, on peut tapoter, ça c'est la gare Saint-Lazare, mais c'est aussi un type de troisième lieu. Donc on est comme tout le monde. Et on s'est dit qu'il fallait améliorer l'accueil. Et il y en a eu des stages sur l'accueil dès l'étape des médiathèques. C'était déjà la réflexion. Et la notion d'accueil continue. Et finalement, favoriser l'intégration sociale, rôle social des bibliothèques, on y est. Avec un rôle ici important de la BPI dans toutes ces journées qu'ils organisent en partenariat à travers la France. Alors, bien sûr, on s'est dit, à un moment donné, quel impact au CFB? Moi, j'ai appris les statistiques, les lecteurs, le nombre de lecteurs, etc., les catégories socio-économiques. C'était quoi? C'était ce qu'on appelait les lecteurs, c'était les inscrits, les statistiques. Et donc, on s'est mis à faire des questionnaires de satisfaction. Attention, parce que quand on interroge le public d'une bibliothèque, on n'interroge jamais que le public qui est adapté à la bibliothèque. Hein. Toute bibliothèque sélectionne le public qui est adapté. Mais là, on est dans vraiment la grande période des mesures d'impact avec l'enquête qui nous a été rappelée par Nicolas Georges. Et finalement, il fallait bien le faire entrer en scène, ce public. Ce public, il était, pas forcément en premier, mais on le voyait. La bibliothèque publique et son public. J'ai eu aussi des cours là-dessus. Voilà, en connaissance des besoins. Mais c'était quoi le public? C'était les lecteurs. Et donc, comment on appelle le public? Ça, c'est une question essentielle. Et petit à petit, on a vu ce glissement sémantique, sachant que toutes les appellations coexistent. Les lecteurs, les adhérents, les abonnés, j'ai hors de ce truc-là. Ça continue, ce guide pratique de l'abonné est publié par une grande ville en France. Hein. Voilà comment on est abonné à un théâtre ou à un club de remise en forme. Les usagers, les publics, et finalement, ce que je préconise, ce qui est le vrai mot politique pour des élus, c'est les populations. On est là pour les populations. Et c'est là qu'on arrive, avec les médiathèques, arriver la foule. Alors, grâce à un système de prêt interbibliothèque de mon département, j'ai pu lire me procurer l'effet Beaubourg que je n'avais pas lu à l'époque, sorte de brûlot anti-Beaubourg par Jean Baudrillard. Et voyez, les foules s'irruent par le malentendu est total lorsqu'on dénonce Beaubourg comme une mystification culturelle de masse. Les masses, elles s'y précipitent pour jouir de cette mort, de ce dépeçage, de cette prostitution. Les masses foncent comme vers Beaubourg, comme elles foncent vers des lieux de catastrophe, etc. C'est pas parce que c'est Baudrillard qu'on est obligé d'admirer. Je n'admire pas. J'ai vu, parmi des collègues, cette foule crainte. C'était normal. Tout d'un coup, on était comme une grande surface. Le grand public arrivait avec des tas de comportements qui étaient différents, auxquels on ne s'y attendait pas. Et il fallait trouver les réponses. Ce n'était pas évident, c'était difficile. Mais enfin, le public de masse ne pouvait pas être renié. Et puis ce public, c'est qui? Et on a commencé à le cibler, à le segmenter, comme on dit en marketing. J'ai écrit personnellement un article que je renie absolument quand est paru le premier bouquin sur le marketing par Jean-Michel Salin, où je me moquais de cette notion de segmentation. J'avais bien tort, évidemment, les publics sont différents de toutes sortes, individuellement et par groupe. C'est Claude Poisneau qui se moque de la, comment dirais-je, du public abstrait qu'ont souvent rêvé les bibliothécaires. Évidemment qu'il faut traiter par catégorie et par individualité jusqu'à des publics particuliers que la lecture publique a toujours servi, qui sont les publics qu'on dit captifs, et les hôpitaux, et les centres de détention, etc. Et voilà. Et les différents types de handicap. Et puis, finalement, n'oublions jamais, jamais, jamais qu'un énorme public de la lecture publique, ce sont les enfants. J'ai appris au CFB que c'était très lié à la lecture publique, mais à l'origine, il n'y avait aucune place en France, contrairement à la bibliothèque anglo-saxonne. Voilà. Et donc, il est entré avec des questions de tous les jours, comme celui-ci, le gamin qui passe des heures à la médiathèque pour jouer à la PS4, tu lui demandes s'il prend le temps de manger, les parents sont pas là, etc. Voilà, hein, du quotidien. Mais enfin, il est là, puis on se débrouille, et puis on trouve des réponses à tout ça. Alors, le rapport au public, je l'ai souvent entendu, sous forme de la conquête. C'est un point de vue que je trouve un petit peu colonial. Les populations... Si vous dites population, vous n'avez pas besoin de la conquérir, vous avez besoin de développer des services pour elle. Et puis, on a souhaité sa participation, parce que dans les années 70, on se méfiait de tout ça, parce que les comités du GAG, c'était la batte noire, figurez-vous. Hein. Il y en avait encore, et c'est vrai que c'était des comités un peu filtrés, qui n'étaient pas forcément représentatifs, hein, etc. Et donc, c'était plutôt le mot d'ordre, protégeons-nous, mettons-nous un cahier de suggestions, puis ça suffit. Et là, on a vu beaucoup se développer les dispositifs de participation. Et puis, ce concept de design thinking qui ne vient pas des bibliothèques, dont moi, j'ai entendu parler par mon DGS déjà en 2011, pour de tout autre domaine d'activité, et qui est une façon de construire du service public, ce en se posant du point de vue du public, en changeant le point de vue, en faisant de la parallaxe. Et donc, voilà, se mettant du point de vue du public, donc, sortant du ça, on peut arriver à comprendre des choses. Alors, les auteurs, il fallait bien qu'ils y arrivent. Malheureusement, ils se retrouvent souvent sous la forme de l'ayant droit. Et donc, on a eu cette bataille absolument terrible du droit de prêt, où on a eu plus de 200 auteurs, et des auteurs qu'on admirait, qui voulaient que le prêt soit payant en bibliothèque. Cette bataille s'est terminée par un compromis, comme on sait, qu'on peut juger rétrospectivement extrêmement sage, mais voilà ce premier choc dans les années 2000 d'un divorce entre certains auteurs et éditeurs qu'on admirait ô combien, comme Jérôme Lindon, des éditions de Minuit, et puis voilà cette volonté d'absolument faire payer le prêt en bibliothèque. Et puis il y a eu les lois d'AFSI, etc., et ses suites, avec une petite exception qui a été gagnée, mais qui permet quand même de faire de l'écoute sur place, par exemple, de musique, etc. Bon, voilà, c'est une petite chose, mais c'est pas négligeable. Il faut toujours tenir. Et puis maintenant, c'est toutes les questions de prêt, ce qu'on appelle le prêt numérique. Ce n'est pas une bonne expression, mais il s'est imposé, donc je l'utilise, avec la campagne d'Eblida, le droit de lire sous forme électronique, avec une exception qui est demandée pour les bibliothèques. Mais évidemment, les auteurs, ils ont toujours été présents. Alors bien sûr, une bibliothèque n'est pas qu'une bibliothèque de littérature. Quand on parle d'auteur, on pense surtout auteur de littérature. C'est une partie des services rendus par les bibliothèques. Mais voilà, les auteurs ont toujours été, au cours de ces années, au cœur de l'action culturelle des bibliothèques. Alors, le pluralisme. Eh oui, un jour, j'ai reçu cette petite note de mon maire. Je vous prie de bien avoir retiré de la bibliothèque les trois titres suivants, Histoire de l'érotisme et Vénus et Erotica d'Anaïs Nin, excusez du peu, et Les petits oiseaux. Non, L'histoire de l'érotisme, c'était de l'Oduka, ouvrage de référence dans le domaine, et sinon, deux ouvrages d'Anaïs Nin. Donc, on m'a dépêché un employé de mairie pour enlever ces livres. J'ai envoyé un petit mot au maire en disant que j'avais compris qu'il en voulait une communication et qu'il y aurait retour. Il n'y a jamais eu retour. Voilà un petit témoignage de choses qui existent. Et puis quelques... Mais ça, je l'ai retrouvé dans mes archives, je ne m'en rappelais plus du tout. Monsieur Larry, je ne serais pas d'accord pour l'achat de livres en arabe. Bon, ce genre de choses existent. Il existe par... de façon ponctuelle, comme c'était le cas, ou bien dans des campagnes, comme cette campagne violente contre une partie de la littérature jeunesse, par ce Marie-Claude Monchot, qui avait écrit pour nuire, avec un beau, comment dirais-je, collectif renvoyant la censure, avec le dessin de PEF, toujours fidèle à ses causes. Et puis, ensuite, ça a été le Salon Beige, et puis, voilà, on a des bouffées, comme ça, ça revient, ça repart, ça va revenir, ça va repartir. Pour moi, la question n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée légalement, législativement. Mais ça a quand même traumatisé les bibliothécaires. Je me suis dit, non, mais c'est nous qui choisissons. Ah bon, vous choisissez quoi? Comment? Selon quels critères? Ah, Et je témoigne qu'on n'en parlait pas entre nous. C'était le secret, l'intime, le choix des livres. Il n'y avait rien. Et donc, gloire à ceux qui ont, à la figure aussi de Bertrand Calange, qui a beaucoup milité pour ça, gloire à ceux qui ont travaillé pour qu'il y ait dans toutes les bibliothèques, n'est-ce pas, ça existe partout, hein, une charte d'acquisition. Voilà. Validé. Et alors, on s'est demandé... C'est intéressant parce que moi, j'ai appris l'encyclopédisme. Il faut absolument des collections encyclopédiques. Et puis, de la plus grande à la petite bibliothèque, il faut beaucoup de choses surtout, et puis un petit peu surtout, etc. On se rend compte que ce n'est plus le problème, que l'encyclopédisme, parallaxe, du point de vue des gens, ils doivent avoir accès à tout. Mais par chaque bibliothèque singulière, non, ce n'est pas forcément le problème. Rien que vos ressources numériques, c'est des petits bouts par-ci, par-là. Et il y a des bibliothèques de proximité qui ont des fonctions qui ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Alors ça, ça a été un moment de mobilisation d'une partie. Il y a eu les bibliothécaires qui ont été Charlie, et dans les équipes, tout le monde n'était pas Charlie. C'est un moment de presque d'expression que Raphaël Batz a bien décortiqué, d'expression politique directe qui allait contre le devoir de réserve habituel, ou bien alors d'expression d'organisation commandée par le politique qui est obligé, etc., à dire « je suis Charlie ». C'est un grand moment qui continue, parce qu'on est toujours sur ces questions-là, sur les questions de la laïcité dont on parle très peu entre nous, malgré l'excellent rapport de Françoise Legendre. On en parle très peu. Je vois les bibliothécaires qui en parlent sur leur Facebook, etc. À titre individuel, on est très divisé sur ces questions. Il y a assez peu de réflexions qui convergent professionnellement. Là, on voit, entre 2004 et 2017, passe le terme de pluralité culturelle qui devient interculturalité. Voilà, c'est des questions qui sont d'avenir, qui montrent que la bibliothèque est en plein dans les enjeux de société actuels. Alors, un peu d'économie politique. En 1977, au Congrès de Lyon, proteste énergiquement l'ABF contre la pénurie de crédit dont souffrent les bibliothèques, etc. Voilà, il y a toujours la protestation, je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, hein, financière. Mais les Trente Glorieuses, c'est une Trente Glorieuse économique, elles ont fini avec la crise du pétrole en 1973. Mais on peut considérer quand même que les collectivités territoriales ont connu des Trente Glorieuses décalées par rapport aux Trente Glorieuses économiques. Où on était, ma génération a eu cette chance, dans le toujours plus, tout le temps, plus de moyens, plus de ci, plus de ça. On n'y est plus, mes chers collègues. C'est un secret pour personne. Et donc, il faut se débrouiller autrement. La gratuité, c'est une question économique. Ça reste un sujet. Et il y a encore des bibliothèques qui deviennent gratuites maintenant. C'est formidable. Il y en a quelques-unes qui repassent payantes, mais bon, ça continue. Et la notion de concurrence et de marché qui reste un petit peu floue. On est dans un univers de concurrence, même si on n'est pas dans un univers de marché. Si on se place du point de vue du service public, on est quand même mis en concurrence par le public, il faut le savoir, et on parle de cette réalité-là. Alors, du point de vue politique, les bibliothèques sont partout et nulle part, je ne vais pas dire en même temps, n'est-ce pas ? Mais j'ai toujours vu des municipalités ou des départements de différentes couleurs qui étaient, où dans tous les camps, il y a le pire, et absolument le pire et le meilleur. Finalement, c'est assez rassurant. Mais ce qu'il y a eu souvent, longtemps, c'est la méfiance des bibliothécaires vis-à-vis des politiques, de l'entre-soi anti les politiques, les élus, mon élu, etc. Je sens que ça progresse un peu. C'est absolument indispensable. Alors moi, je donne un signe, c'est le fait qu'on est une des seules professions qui utilise le mot tutelle pour parler de son propre maire ou président. Alors les autres collègues d'autres professions disent pas du tout, c'est notre tutelle, c'est une notion d'extériorité. Ça progresse, et progresse la connaissance et la fécondation réciproque conceptuelle dans les projets. On ne peut pas se contenter de brandir le manifeste de l'UNESCO, il faut aussi être partie prenante à un des projets donnés dans des langages qui soient accessibles par le public. Alors, il est moins 5, donc je vais opérer un raccourci. De toute façon, je ne pensais pas partout, je ne pouvais pas ne pas parler des territoires. Voilà. Les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains, c'est d'abord les gens qui ont leur bassin de vie qui s'organise à l'échelle des territoires. C'était avant que je fasse mon CFB, mais il y en avait déjà les derniers feux que j'ai connus. Des collègues qui ont imaginé des bibliothèques en réseau à l'échelle nationale. Ils disaient que le service public ne peut être vraiment raisonnablement égal qu'organisé en réseau. Mais ils ne trouvaient pas l'échelon politique. Alors pour eux, c'était un réseau national. Voilà. Mais actuellement, on a la clé politique pour organiser ça. On est passé de la notion de coopération entre bibliothèques, pour que j'ai vu beaucoup de colloques, journées d'études, c'était de l'entre-soi encore la coopération entre bibliothèques. Là, c'est la coopération intercommunale, c'est dans un cadre politique qui est ce qu'il est, hein, qui a ses faiblesses, ses complications, qui a sa construction chaotique, mais qui est ce qui est. Et donc, on a une chance extraordinaire, c'est que dans le MIFEL, les bibliothèques sont dans la commune, dans l'interco, dans le département, dans la région et dans l'État, on est partout. Et puis on y arrive. Alors, soyons vraiment partout et profitons intelligemment de différents échelons sans faire doublon. Dans mon cours de CFB, on me disait qu'il faut passer de la notion de bibliothèque, un seul bâtiment, à celle de réseau communal. Mais déjà, c'était quelque chose. Alice Garrigou, c'est un beau cours que j'ai redécouvert sur la lecture publique par Alice Garrigou, qui est morte l'an dernier à 97 ans, je crois. Voilà. Et la notion de maillage indispensable avec le véhicule qui est un élément, il n'y a pas que les bâtiments, le véhicule a un élément indispensable des réseaux de bibliothèques. Voilà le maillage, absolument. Et puis, des nouveaux métiers qui apparaissent, qui sont des métiers de coordination intercommunale, qui n'ont pas de directeur. À travers la France, ça bouillonne de partout. C'est un mouvement extraordinaire. C'est un nouvel espace pour les bibliothèques. Ça bouscule complètement nos habitudes de fonctionner lieu par lieu. Et donc, il faut du temps, parce que ça se passe avec des hommes et des femmes, et il faut du temps pour que la mutation se fasse, mais on y va. Alors ça, c'est un dessin que j'adore d'Honoré Daumier, qu'il a écrit en 1860. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait déjà les fortifs de construits tout autour à l'emplacement du périphérique actuel de Paris, mais il y avait des communes rurales, il y avait de la campagne à l'intérieur des fortifs, et il y avait des villages comme Vaugirard, Grenelle, Belleville, et autres. En 1860, pof, ils sont annexés par Paris. Et dire que nous voilà parisiens, disent les deux paysans. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'avec les périmètres intercommunaux, des collègues urbains découvrent la campagne et des bénévoles qui gèrent des bibliothèques, ce à quoi étaient habitués les bénépistes. Et donc, un des enjeux actuels, c'est de faire réseau avec tout ça tel que c'est. Et donc, ça ne va pas tout seul, c'est un effort. Alors, voilà, un pied de page publicité pour le travail de l'ABF là-dessus. Et puis, je n'avais pas encore parlé des BDP, c'est un comble, mais la BDP qui avait hérité de la geste verticale étatique d'elle aider les points individuellement, point par point, ce qui était organisé leur dépendance, se retrouve dans le défi d'accompagner la construction des réseaux horizontaux. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, mais ce qui s'accélère, c'est un véritable changement de paradigme. Alors, l'espace-temps, voilà, quand même, rappelons, vous ne vous rappelez pas de cet article de Peter Borchardt de 2002 dans le BBF, après avoir fait plein de fleurs aux bibliothèques françaises, qui ont un beau bâtiment, des belles actions culturelles, etc., et nous balance. Ce qui ne manque jamais d'étonner les bibliothécaires allemands, c'est la disproportion entre l'effectif du personnel et les heures d'ouverture. Nous constatons régulièrement que bien des bibliothèques françaises ne disposent plus de personnel, que les bibliothèques allemandes, et n'en continuent pas moins à offrir beaucoup moins d'heures d'ouverture. Tous les collègues récemment qui ont fait des voyages à l'étranger ont constaté la même chose. Alors, pour aller vite, on est à l'âge de l'innovation. C'est indispensable. Et donc, devant les défis qui nous séparent, le terme innovation, qui a fait l'objet de magnifiques mémoires de l'ENSIB, est absolument présent et il continue. Et ce qui est très important, ça a été dit, c'est le droit à l'erreur. Et donc voilà, ce qui va être montré demain, c'est peut-être tout un tas de définitions d'innovation. On se plante, mais ça ne fait rien. Et même, on parle de nos erreurs. C'est un véritable chantier. Mais ce chantier change l'image des bibliothèques. Là, j'ai pris bêtement un numéro de Paris-Normandie. Et voilà. Et les journaux disent que les bibliothèques sont à la page. Et voilà, rarement on dit, viens chez vous, je suis à la bibliothèque, c'est le troisième lieu. Et là, ils partent toujours du cliché, la bibliothèque poussiéreuse, machin, etc., pour dire, voilà. Mais ça commence à prendre. Et pour ça, effectivement, importation de concepts, l'advocacy devient quelque chose d'important pour faire passer le rôle actuel des bibliothèques et les défendre telles qu'elles sont, ce à quoi elles peuvent utiles. Alors, j'aurais pu aussi parler des bibliobus, des boîtes à livres, ou du patrimoine qui n'était pas tout à fait dans mon sujet. Classiquement, on disait dans la lecture publique, il y a le côté patrimonial qui n'est pas la lecture publique, mais qui est très important. Il y a des choses qui ne sont toujours pas réglées, c'est que le catalogage, mes chers collègues, continue, ne serait-ce que sous forme d'ateliers de réparation de notices dites défectueuses. La question identitaire continue, elle n'est pas réglée, et la question du tri, c'est-à-dire des éliminations, continue parce que on n'a pas encore vu partout que nous ne sommes que dans une notion de stock éphémère, plutôt de flux. Voilà. Et puis, ce qui n'est toujours pas réglé, mais intéressant, c'est la verticalité de la prescription, l'horizontalité du rapport au sujet et le caractère montant de la bibliothèque participative. Alors, il me faut conclure, parce que j'ai mangé mes trois quarts d'heure. Ce qui m'a paru intéressant en plongeant dans ce passé, c'est qu'en fait, il est toujours présent, non pas pour nous enfermer, c'est aussi un point d'appui, mais parce que dans les équipes, il est toujours présent et parce qu'on a toutes les couches qui sont encore là, comme dans une coupe géologique. Et donc, si on rentre actuellement nouveau professionnel dans une bibliothèque, c'est intéressant de connaître tout ce passé parce qu'il parle encore, il agit encore. Et puis, je veux finir sur le mot de lecture publique, parce qu'on m'a donné comme sujet lecture publique, ce que je n'ai pas contesté, mais la lecture publique, c'est une lecture en public, beaucoup, beaucoup de gens. Qu'est-ce que c'est que ce terme? Et donc, Alice Garrigou nous disait en 1976, lecture publique, service public de la lecture, apparu avant-guerre, ce terme est en train de disparaître. Alors, elle n'a pas eu de... Elle avait tort, mais à mon grand regret, parce que c'est un terme un peu jargonnant. Mais en tout cas, pour avoir fréquenté... Alors, d'abord, la lecture publique, ce n'est pas que les bibliothèques de collectivités territoriales. Ça, c'était hier sur la place de la République. Il y avait la grande manifestation d'ATD Quart-Monde. Bon, ces bibliothèques de rue sont bien connues. Il y a des associations qui gèrent des bibliothèques en prison. Il y a des bibliothèques associatives. Il y a toutes sortes d'initiatives qui relèvent de la lecture publique. Et puis, comment dirais-je, bien sûr, l'ancien maire du Havre, c'est un de ses thèmes... la bibliothèque, c'est un instrument parmi nous de la lecture publique. Et donc, cette relativisation est intéressante. Et donc, nous assimilons trop lecture publique et bibliothèque publique. Et chaque fois que je suis intervenu avec des élus, j'ai toujours eu ce gap qui est intervenu. Et il faut se dire que ce n'est qu'un instrument parmi d'autres. Mais malgré tout, avec tout ce tohu-bohu et ce passé qui ne passe pas, lisons avec plaisir Sylvie Robert dans son rapport sur les horaires d'ouverture. J'aimerais tout de suite lever ce paradoxe entre la représentation collective d'un lieu figé et ringard et la réalité qui s'y fait véritablement, même s'il y a encore beaucoup de travail pour lever des verrous symboliques, juridiques et politiques. La bibliothèque est peut-être l'équipement culturel qui s'est le plus remis en question face aux mutations de notre société, qui possède le potentiel le plus fort de mutabilité. Car en plus d'être un lieu d'accès au savoir, c'est d'abord et surtout un lieu public repéré, ouvert, présent, presque partout. Mutabilité, c'est un des trois piliers de la notion française de service public qui est l'égalité, la continuité, la mutabilité. Et donc, nous sommes mutants, n'est-ce pas, cher Darwin, et c'est une bonne chose. Et donc, les frontières de la bibliothèque, ne sont pas claires, et c'est une bonne chose. Elles bougent, on est dans le mouvement, et elles sont différentes d'un endroit à l'autre, parce que les contextes sont différents, les politiques sont différentes. Et donc, c'est un hommage, ça, à la porosité. Les bibliothèques ont su être poreuses, et continueront, j'espère, à l'être encore plus, poreuses, à la société qui la surprend, au public qui invente avec eux ce dont il a besoin et qu'on n'attendait pas, poreuse aux différents types de politiques, sociales, éducatives, etc., poreuse aux logiques de politique publique dans lesquelles nous nous inscrivons.
Merci Dominique, merci. Voilà, j'allais vous y inviter. Je peux essayer de vous accompagner, mais c'est pas conseillé. J'allais dire que c'est ton anniversaire, mais tout le monde a compris.
Oui, c'est vrai. Il se trouve que c'est vrai, oui. C'est un hasard.
On va prendre le temps de questions, on va dire.
Ou expressions, ou compléments.
Ou compléments d'informations, ou réflexions.
Pas traité, qui méritait de l'être.
Bon, en fait, s'il n'y a pas de questions, ça nous arrange, hein, parce que comme on est en retard...
J'ai chanté le 2-3 diapos sur le rôle indispensable de l'État et des subventions d'État et de la dotation globale, du travail des DRAC, etc. Donc voilà.
De toute façon, tu vas nous donner ton PowerPoint, il sera sur le site après. Donc,
oui,
donc
voilà.
On pourra voir tout
donc,
ça.
Voilà, ça n'était pas à oublier non plus. Hein.
Bon, donc s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de réflexion, s'il n'y a pas de compléments, on va passer à la table ronde. Peut-être d'ailleurs que dans la discussion après la table ronde, il y aura des questions qui pourront faire lien avec le propos de Dominique, et ça sera très bien.